en séance. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
L'Europe est le thème principal de travail de l'Académie des sciences morales et politiques en cette année 2004. Jusqu'à la fin de l'année, les académiciens, l'Académie des sciences morales et politiques propose à 15h tous les lundis donc une séance publique dans le palais de l'Institut de France, en salle des séances. Une personnalité, académicien ou personnalité extérieure à l'Académie, vient présenter une communication autour de ce thème. Et le lundi 4 octobre 2004, c'est Virgilio D'Astoli qui était invité à s'exprimer. Virgilio D'Astoli, directeur du bureau de la représentation de la Commission européenne en Italie. Thème de sa communication, l'Europe des fédéralistes. Nous rejoignons tout de suite la salle des séances.
Monsieur le Président, Monsieur le Chancelier, Monsieur le secrétaire perpétuel, Mesdames et Messieurs les académiciens, Mesdames et Messieurs, permettez-moi d'abord de vous remercier et de remercier tout particulièrement le président Michel Albert pour la chance qui m'a été donnée d'esquisser devant votre académie prestigieuse les éléments essentiels de l'Europe vue par les fédéralistes, et ceci à la veille de la signature à Rome de la Constitution européenne. Je suis conscient du fait qu'en m'adressant à vous en français, qui n'est pas ma langue maternelle, je risque de vous livrer une expression appauvrie de ma pensée et de commettre des fautes linguistiques plus ou moins graves. Mais c'est le destin d'une lingua franca comme le français. Tout en respectant les diversités linguistiques et donc culturelles dans une union qui compte aujourd'hui 21 langues officielles et demain davantage, j'exprime mon souhait que les Français et l'Anglais gardent sur un pied d'égalité, je dis bien sur un pied d'égalité, leur caractère de lingua franca, comme le latin et le grec l'ont été lorsqu'ils sont devenus les deux langues de communication courantes dans l'Empire romain. Après autant d'architectes de la construction européenne, tels que Jacques Delors, Michel Notat, Pascal Lamy, Raymond Barre, Borislav Keremek, Jean-Claude Trichet et le président de la Commission européenne, Romano Prodi, pour ne citer que ceux qui me viennent à l'esprit et qui sont exprimés en 2004 devant l'Académie, vous avez décidé de donner le droit de parole à un militant fédéraliste. Je m'adresserai donc à vous en essayant de mettre au service de vos méditations sur l'avenir de l'Union mon expérience qui a été tout au plus celle d'un maçon ou d'un arpenteur dans le chantier de l'Europe politique. Il y a 32 ans, je suis devenu fédéraliste, après avoir vécu l'expérience décevante des tentatives d'action politique par le biais d'un parti italien qui, comme tous les autres, s'était donné le seul but de la conquête du pouvoir au niveau national et était convaincu que l'État-nation était la seule garantie de la démocratie et de l'épanouissement du bien commun. Et pourtant, tous les grands partis contemporains ont leurs racines dans des idéologies qui dépassaient les frontières nationales, jusqu'à l'éclatement de la Première Guerre mondiale. Le cosmopolitisme des libéraux, l'universalisme des mouvements chrétiens, l'internationalisme des socialistes et des marxistes. Voilà un des effets pervers de la confrontation entre États-nations qui a provoqué tellement de désastres en Europe et dans le monde lors du siècle dernier. Intéressé par les affaires internationales et par les débats sur un nouvel ordre mondial, je suis devenu fédéraliste inspiré par la révélation suivante d'Altiero Spinelli. Je cite « Vu que j'étais en quête de clarté et précision des pensées, mon attention n'a pas été attirée par le fumeux, tordu et assez peu cohérent fédéralisme idéologique du genre proudhonien et ou mazzinien qui fleurissait en France ou en Italie, mais par l'idée nette, précise et antidoctrinaire des fédéralistes anglais de la décennie précédant la Deuxième Guerre mondiale. En effet, lorsque le manifeste de Ventotene fut écrit en 1941 par Altiero Spinelli et Ernesto Rossi, proposant des idées, un mouvement et une action pour créer les États-Unis d'Europe, la vision d'une fédération européenne existait déjà depuis le projet d'une réorganisation de la société européenne, établie en 1814 par Saint-Simon et Augustin Thierry, pour ne pas parler du système d'État imaginé par Emmanuel Kant 20 ans auparavant. Les idées des fédéralistes italiens à la fin de la Deuxième Guerre mondiale avaient influencé par ailleurs d'autres mouvements à caractère fédéral et antifasciste, notamment en Suisse et en France. un comité français pour la Fédération européenne avait intégré dans ces pays sur l'initiative du mouvement de libération nationale, qui rassemblait toutes les organisations de résistance telles que Combat, Franc-Tireur, Libération, Défense de la France, France au combat, Lorraine et Résistance. Une conférence interfédéraliste européenne eut lieu finalement à Paris en mars 1945, à l'initiative du groupe français et notamment d'Albert Camus, André Philippe, André Malraux, Emmanuel Mounier, André Ferrat, Vincent Auriol, Henri Freinet et Jean-Marie Soutou. Comme vous le savez, l'idée d'une unité du continent faite par les Européens et la nécessité d'aller au-delà des nationalismes avaient produit trois modèles ayant trois buts communs. Une exigence de paix, comme il avait été affirmé au congrès de La Haye en 1948. Je cite « Plus jamais de guerre entre nous ». Une exigence économique pour reconstruire des pays dévastés et pour s'adapter à la nouvelle situation du monde de l'après-guerre. Une exigence de survie des Européens qui avaient perdu le leadership politique exercé depuis les grandes découvertes dans le but de reprendre la fonction d'acteur dans la politique mondiale. Ce modèle était très différent tant pour les solutions proposées que pour leurs racines politiques et culturelles. Pour une majorité d'hommes politiques venant de l'expérience de l'État-nation, l'unification européenne devait se construire autour d'une ligue d'États souverains engagée à développer des politiques communes dans des domaines et selon des instruments décidés d'un commun accord. Pour les partisans de la méthode dite fonctionnaliste comme Jean Monnet, la reconstruction économique ou la sécurité extérieure exigeait des administrations communes afin de gérer les marchés du charbon et de l'acier ou l'énergie nucléaire ou de créer une armée commune ou une union douanière, et les États auraient dû accepter de déléguer une partie de leur souveraineté de gestion à ces administrations, tout en gardant chacun sa propre souveraineté nationale. Le modèle fédéraliste proposait de maintenir et respecter la souveraineté des États dans tous les domaines ayant une dimension et des significations nationales, mais de transférer un gouvernement européen, soumis au contrôle démocratique d'un Parlement élu, et agissant conformément à des lois européennes, la souveraineté dans les domaines de la politique étrangère, militaire, économique et monétaire, ainsi que de la protection des droits fondamentaux. Il s'agissait d'un modèle qui avait fait ses preuves aux États-Unis, en Suisse, au Canada, en Australie, mais qui était difficile à faire passer dans des pays où la pensée fédéraliste était loin de la culture politique traditionnelle. La mise en cause de la souveraineté nationale risquait en plus de soulever des craintes profondes dans des pays où l'État avait créé la nation, comme la France et la Grande-Bretagne, contrairement aux pays où l'identité nationale était ancrée dans la conscience des peuples avant la création de l'État, comme l'Allemagne et l'Italie, et où le nationalisme fanatique avait provoqué des désastres sanglants. L'intégration communautaire représente un compromis institutionnel entre ces trois modèles, ce qui est confirmé par le fait que les juristes, faute d'une théorie préétablie, ont été obligés de la considérer comme un système sui generis. Il s'agit essentiellement d'une construction fonctionnaliste qui a progressé selon la méthode communautaire, notamment à travers l'attribution d'une délégation de pouvoirs d'initiative et de gestion à la Commission européenne. L'exigence de réaliser les objectifs originaux de la construction et la nécessité de les dépasser dans des domaines nouveaux ont mis au centre du système de décision un organe de type confédéral, le Conseil des ministres nationaux, qui agit ou le plus souvent n'a pas été capable d'agir pendant 30 ans, de 1957 à 1987, en appliquant en son sein les principes de l'unanimité dans toutes les matières législatives. Puisqu'il s'avérait impossible de garder les dynamismes nécessaires au processus d'intégration sans lui donner une vision et une ambition tournée vers l'avenir, le fédéralisme étant la seule méthode dotée d'une vision politique et d'une ambition démocratique, les institutions à caractère confédéral et fonctionnaliste ont été accompagnées par des institutions de type fédéral. Le contrôle de l'état des droits européens a été confié à une cour de justice distincte de celle nationale et tout à fait indépendante d'elle. Les citoyennes et citoyens de la communauté et ensuite de l'Union sont représentés par un Parlement qui est élu au suffrage universel direct depuis 1979 et qui a été progressivement mis sur un pied d'égalité avec le Conseil dans les procédures d'adoption des lois communautaires. Le pouvoir monétaire a été attribué à la Banque centrale européenne et 12 pays membres de l'Union ont renoncé à leur monnaie nationale pour les remplacer avec l'euro. Si nous regardons les 47 ans du processus d'intégration communautaire avec des yeux libres d'obstacles idéologiques, nous constatons qu'un acquis des lois, des politiques, des ressources, d'initiatives communes s'est formé au sein de la communauté et ensuite de l'Union autour d'institutions communes et que cet acquis a été notamment le fruit de la méthode communautaire, c'est-à-dire du pouvoir d'initiative de la Commission, du vote à la majorité qualifiée au sein du Conseil à partir de 1987 et du consensus du Parlement européen ou, dans un nombre de cas importants, de l'activité de jure condendo de la Cour de justice de Luxembourg. Je ne vous ferai pas ici l'inventaire des acquis les plus importants de la législation communautaire, à travers laquelle de nombreuses règles ont été introduites, non seulement pour parachever les marchés uniques, mais aussi pour protéger les consommateurs et l'environnement, pour améliorer les milieux du travail, pour simplifier la vie du monde industriel, pour faciliter les échanges culturels, non seulement les échanges commerciaux, et pour renforcer la cohésion économique et sociale. Et pourtant, il arrive de lire souvent dans la presse, et non seulement dans les tabloïds britanniques, tels que le Daily Mail ou le Daily Telegraph ou le Sun ou le Times, mais aussi dans la presse française ou italienne, que les eurocrates de Bruxelles auraient décidé, je vous cite, de standardiser la dimension du pain, d'éliminer les fromages traditionnels, de ne plus appeler œufs les œufs et les cabillauds cabillauds, d'imposer des étiquettes en latin, ou d'obliger les moules à se reposer durant les transports, ou de rendre les concombres, les bananes et la rhubarbe droits, les noix carrées et les fraises ovales, ou d'obliger les traiteurs à cuisiner des pizzas de 11 pouces, ou de peindre les ambulances et les taxis en jaune. Aucune de ces choses, évidemment, est vraie et réelle. Là où le pouvoir était confié aux États nationaux tout seuls, et donc soumis à l'obstacle de l'unanimité et à la mainmise des souverainetés nationales, la réalité montre qu'aucun progrès substantiel n'a été fait par le bien commun des Européens et dans les domaines de la sécurité externe particulièrement ou proprement dans celui de la croissance économique et de la compétitivité. La méthode communautaire a permis d'avancer non seulement dans la réalisation du marché intérieur, de la politique agricole qui d'un certain point de vue est une sorte de politique préfédérale et de la politique commerciale commune, mais aussi d'établir les éléments essentiels de certaines actions communes dans des domaines comme la recherche et l'innovation technologique, la protection de l'environnement et la culture, qui ont débouché sur des programmes pluriannuels. Il est intéressant de noter que ces premières actions ont été conçues, mises en place et développées au début des années 70 par Altiero Spinelli, membre de la Commission européenne. Dès la création de la CECA, on voit donc se profiler la méthode dite de l'engrenage, comme dit Jacques Delors, ou des petits pas, tels qu'imaginés par Robert Schuman dans sa déclaration du 9 mai 1950. Je cite, « L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble, mais dans des réalisations concrètes, créant des solidarités d'effet. » Or, l'histoire communautaire nous amène à faire deux constatations. Les résultats les plus importants obtenus par la construction européenne n'est pas la liste des réalisations que Robert Schuman appelait concrètes, mais la mutation de la conscience politique, qui nous oblige à conserver ce qu'on a construit et à continuer à penser tous les grands problèmes en termes européens et à nous demander constamment si les institutions communes sont suffisamment efficaces et démocratiques pour résoudre ces problèmes communs. Chaque fois que la méthode de l'engrenage n'a pas fonctionné, les États membres ont dû s'adapter aux besoins d'une révision des traités existants, comme il a été le cas pour la réalisation de l'espace européen sans frontières à travers l'acte unique de 1987 ou de l'Union économique et monétaire à travers les traités de Maastricht de 1991. Ainsi, les États membres ont donné chaque fois une réponse commune européenne à un problème commun européen. Et l'Europe des souverainetés nationales a laissé les pas à un approfondissement de l'intégration. Si on analyse à fond cette situation, force est de constater que le besoin d'une révision des traités a été posé chaque fois qu'on a eu besoin d'un transfert de souveraineté, et que chaque transfert de souveraineté a permis de trouver des solutions communes et d'accomplir un pas supplémentaire vers la finalité fédérale de la construction communautaire. C'est dans ce cadre qu'il faut inscrire la question qui est apparu à nouveau en 1972, de transformer les relations établies par les États membres au sein de la communauté en une véritable Union européenne. Vous rappelez certes du rapport Tindemans, l'ancien Premier ministre belge, mais il est utile de rappeler ici les rapports établis par la Commission européenne à l'intention de Léo Tindemans, rapport largement inspiré par Altiero Spinelli. Selon ce rapport, l'Union aurait dû reprendre les principes de l'unité des droits des communautés, être dotée de la personnalité juridique, être expression de l'identité européenne. En s'inspirant des systèmes fédéraux contemporains et trouvant ses sources culturelles dans l'encyclique du pape Rerum Novarum et de Thomas d'Aquin, les rapports affirmaient, je cite, pas plus que les communautés actuelles, l'Union européenne ne doit conduire à la création d'un super-État centralisateur. Par conséquent, et conformément au principe de subsidiarité, ne seront attribuées à l'Union que les tâches que les États membres ne pourront pas accomplir avec efficacité. Nous savons tous que l'engagement des gouvernements nationaux de transformer leurs relations en une Union européenne avant 1980 est resté sans réponse concrète. Et que nonobstant les trois inventions de Valéry Giscard d'Estaing, le Conseil européen, le système monétaire et l'élection au suffrage universel direct du Parlement européen, la politique de l'engrenage avait échoué encore une fois en conduisant la communauté dans un état de paralysie. L'initiative d'Altiero Spinelli du projet de traité instituant l'Union européenne, inspiré par lui, s'inscrit donc dans le cadre du débat sur la crise de l'Europe, relance la vision fédéraliste de l'intégration européenne en y ajoutant l'élément démocratique venant du Parlement européen élu au suffrage universel direct. C'est en effet son origine parlementaire qui distingue ce projet de traité de toutes les propositions précédentes en matière d'unification européenne. Le texte adopté par le Parlement européen à une très large majorité traduit un consensus politique entre les orientations diverses exprimées au sein des groupes politiques et non par un compromis entre gouvernements. L'importance de ce projet de traité réside dans trois éléments qu'il convient de rappeler à la veille de la signature de la Constitution européenne élaborée par la Convention présidée par Valéry Giscard d'Estaing. La démarche du Parlement européen a mis en mouvement un engrenage des révisions de l'ensemble du système communautaire, révision qui avait été rejetée par l'ensemble des gouvernements nationaux jusqu'à la déclaration solennelle de Stuttgart en 1983. Les propositions du Parlement européen ont été graduellement inscrites par les conférences intergouvernementales dans les traités qui ont suivi les projets Spinelli, de l'acte unique jusqu'au projet de constitution. L'initiative du Parlement européen ouvre la question de la réalisation d'une Europe politique sur base fédérale entre ceux qui voudront, selon la formule proposée en mai 1984 par le président François Mitterrand. En ce qui concerne les processus constitutionnels mis en marche par le Parlement européen, j'attire votre attention sur le fait que les révisions successives des traités ont subi une accélération constante. La raison de cette accélération ne laisse aucun doute. Chaque révision faite par la négociation diplomatique n'a donné qu'une réponse modeste, marginale et précaire aux problèmes croissants de l'Europe. En ce qui concerne le contenu politique des propositions du Parlement européen, leur influence est extraordinaire, à commencer par les principes de subsidiarité et de solidarité, de la démocratie pluraliste qui dépasse les frontières nationales et de l'ouverture de l'Union à tous les autres peuples d'Europe. Je vous rappelle ici que le Parlement européen a proposé de créer une citoyenneté de l'Union, de rédiger une charte des droits fondamentaux, d'adopter un système de codification législative, de sanctionner un État qui viole les principes démocratiques selon une procédure reprise par les traités d'Amsterdam et d'introduire un système d'application différencié. Seule la Convention européenne a réussi à introduire la personnalité juridique de l'Union, le système de partage de compétences, qui est une application du principe de subsidiarité, la définition de la loi, la primauté du droit communautaire et la constitutionnalisation du Conseil européen. En ce qui concerne son entrée en vigueur, le projet du Parlement européen introduit une clause permettant à une majorité d'États, dont la population forme les deux tiers de la population globale des communautés, de décider d'aller de l'avant sans entendre les autres. Sous d'autres noms et formules, je cite « Europe à la carte »,« Europe à deux vitesses », »,« Europe à géométrie variable », »,« Europe à cercle concentrique » ou « à cercle olympique », intégration différenciée, Europe espace versus Europe puissance, noyau dur, fédération d'États-nations, groupe de pionniers, avant-garde, la question ouverte depuis les premières positions du rapport Tindemans en 1975. 20 ans après les projets du Parlement européen, une autre enceinte, composée en majorité par des parlementaires nationaux européens, c'est-à-dire la Convention européenne de Valéry Giscard d'Estaing, a élaboré et adopté un projet de traité instituant une constitution pour l'Europe, qui a été ensuite entériné avec quelques modifications, normalement au rabais, par la conférence intergouvernementale et qui sera signée à Rome le 29 octobre 2004 dans la salle Orazio Curiazzi, là où les six avaient signé en 1957 le traité de Rome. Comme il a été dit par le président Prodi, je cite, elle ne comporte pas de révolution. Elle ne se limite pas non plus à une simple consolidation de ce qui existe déjà. Mais la Constitution sera essentielle pour permettre à l'avenir le maintien et le développement de l'intégration européenne pour un bon fonctionnement des institutions de l'Europe, de l'Union élargie. Tout en soulignant les manques d'ambition du projet de Constitution, notamment dans la politique étrangère et de sécurité, dans l'extension du vote à la majorité, y compris en matière constitutionnelle, et dans les pouvoirs de l'Union en matière de politique macroéconomique, les fédéralistes européens ont lancé un appel pour une conclusion rapide des procédures de ratification dans les pays membres. Ils ont aussi décidé de faire une campagne pour le oui, notamment là où la ratification sera faite par voie de référendum. Je vous ai déjà rappelé les dispositions de la Constitution européenne qui s'inspirent du projet Spinelli et qui complètent les avancées réalisées par les autres traités de révision du système communautaire. Je me bornerai ici à y ajouter son volet social, qui suscite déjà un débat et des critiques par ceux qui voient un symbole de l'orientation libérale d'une Europe élargie, affaiblie et dominée par les thèses anglo-saxonnes. La Convention a proposé et la Conférence internationale a accepté au contraire, un renforcement de la dimension sociale de l'Union européenne. Mais il est tout à fait évident, c'est un outil que je vous le rappelle, que cette Constitution, comme toute autre Constitution, ne détermine ni l'ampleur ni la nature de la politique sociale que l'Union pourra mener en laissant à l'action des gouvernements et des forces politiques dans les parlements européens et dans les parlements nationaux la responsabilité de définir les contenus de la dimension sociale de l'Union. Ces projets de Constitution représentent un des éléments fondamentaux du débat sur l'avenir de l'Europe, qui a été ouvert par le ministre allemand Joschka Fischer à Berlin le 12 mai 2000, et dont les contours ont été indiqués par la déclaration de Laeken en décembre 2001. Ce projet est à la fois le fruit de ces débats et un instrument de pédagogie démocratique, comme il a été défini par Jacques Delors, pour le poursuivre dans les prochaines années. À l'occasion de la Constitution des États-Unis d'Amérique, un grand débat fut ouvert dans les 13 anciennes colonies britanniques et fut nourri par des brochures, des pamphlets, des discours dans les églises, des articles et notamment par les écrits fédéralistes de Madison, Hamilton et Jay signés Publius. Contrairement aux États-Unis, les Européens semblent indifférents à ce genre de débat, dont la conclusion pourrait provoquer des changements importants dans la vie de nos sociétés. Il est significatif de noter l'absence de toute référence à la Constitution européenne et à l'avenir de l'Europe dans la campagne qui a précédé les élections européennes en juin dernier et les très faibles pourcentages des électeurs qui ont participé au vote. On pourrait affirmer que, contrairement aux anciennes colonies britanniques qui étaient appelées à défendre leur autonomie et leur survie, l'Europe n'est pas en crise. Ce qui est évidemment faux, puisque nos sociétés sont en crise, nos démocraties représentatives sont en crise, notre économie est en crise, notre capacité de participer au gouvernement des affaires du monde en tant qu'acteur d'un système multipolaire in stato nascendi est aussi en crise. Je vous montrerai ici un plan du monde qui est très significatif, où les États-Unis d'Amérique sont au centre du plan et l'Europe est marginalisée à la droite du plan. Et ce plan du monde est distribué dans les cartables de tous les élèves américains qui apprennent comme ça comment elle est faite le monde, disons. C'est une démonstration beaucoup plus frappante que n'importe quelle phrase sur l'état du monde. Permettez-moi, en guise de proposition finale, et afin de stimuler notre débat, de vous soumettre les quatre idées suivantes. Comme je l'ai déjà indiqué ci-dessus, le projet de Constitution est le fruit d'un débat à caractère européen. Il faut éviter que les procédures de ratification, suivant un calendrier des enjeux nationaux, affaiblissent, voire annulent ce caractère européen. Il est de l'intérêt des institutions européennes, des gouvernements et des parlements nationaux d'ouvrir une phase d'écoute de la société civile européenne et de le conclure au même moment, je souligne au même moment, avec un vote par référendum ou par voie parlementaire, ayant lieu pendant un mois déterminé. et suggère à vous et aux autres à ce propos de choisir le mois de juin 2005, année anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, comme moment dans lequel le projet de constitution devrait être soumis aux ratifications. Les projets de constitution s'adressent à tous les pays et les peuples de l'Union européenne qui ont le droit de l'accepter ou de les rejeter. Contrairement aux ratifications des traités précédents, le refus de la ratification, dans ce cas, signifie le refus du projet d'intégration politique tel que défini par la Convention européenne. Il faudra évidemment respecter cette décision, comme il faudra respecter la décision de ceux qui auront décidé d'accepter les projets de constitution. Il s'agira, dans ce cas, de sanctionner par un accord commun les retraits d'un certain nombre de pays de l'Union européenne. Parmi les nouveautés du projet de constitution, il y a la constitutionnalisation de la Convention comme lieu politique pour l'élaboration de tout projet de révision constitutionnelle. Au droit d'initiative de révision attribué par les traités précédents à la Commission et à tout État membre, le projet de constitution y a ajouté significativement le Parlement européen, un pouvoir propre à la démocratie représentative qui sera accompagné par un droit d'initiative populaire, un pouvoir propre à la démocratie participative. Voilà deux terrains d'action qui pourraient être utilisés par le Parlement européen et par la société civile avant la fin de cette législature pour demander des progrès plus ambitieux en matière de politique étrangère et de gouvernance économique. Les discussions autour, et c'est la dernière proposition, les discussions autour de la désignation du président de la Commission européenne, le président Barroso, et les faibles pourcentages de participation aux élections européennes doivent nous pousser à être beaucoup plus ambitieux sur la voie de donner à l'Union un gouvernement ayant des pouvoirs limités, mais réels. Dans cet esprit, et en vue des élections européennes en juin 2009, il serait opportun de relancer les débats sur l'élection directe du président de la Commission par le peuple ou de demander, comme il a été proposé à la Convention, aux partis européens d'accompagner la présentation des programmes avec l'indication d'un leader dont le nom serait marqué sur les bulletins de vote dans chacun de nos pays. Ainsi, on accomplirait un pas ultérieur dans la direction de la réalisation de la finalité fédérale indiquée par les pères fondateurs. Ainsi, on pourrait progresser vers la réalisation d'un gouvernement européen ayant des pouvoirs limités mais réels, mais donnant la capacité à l'Union de s'exprimer dans le monde avec une seule voix et de faire devenir donc l'Europe un acteur dans le système multipolaire. Merci beaucoup de votre attention.
C'était Virgilio D'Astoli, directeur du bureau de la représentation de la Commission européenne en Italie. Thème de sa communication prononcée devant l'Académie des sciences morales et politiques en séance publique le lundi 4 octobre 2004, l'Europe des fédéralistes. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'intégralité de la transcription des différents textes, des travaux de l'Académie des sciences morales et politiques, dont ses communications du lundi, sur le site de l'Académie www.asmp.fr et quotidiennement sur cette antenne de Canal Académie, la première radio académique francophone. La suite de votre programme dans un instant.